Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Clès.
Et à la réalisation, François Connac. Il y a ceux qui se demandent pourquoi on est là et ceux qui expliquent de quoi nous sommes faits. Il y a ceux qui ont peur de l'obscurité même en plein jour et ceux qui répandent la lumière du savoir sur les blancs et les trous noirs. Il y a le commun des mortels, c'est-à-dire le plus fou des hommes, et il y a Lucrèce, le plus doué. Le poème de Lucrèce, de la nature des choses, n'est pas seulement, comme le prétend modestement son auteur, une manière de recouvrir du miel de la poésie l'absinthe de la vérité. La poésie de Lucrèce n'est pas seulement l'ornement qui rend la vérité moins douloureuse et son indifférence plus digeste. Non, Lucrèce est d'abord poète parce qu'il écoute le silence et le magnifie, parce qu'il connaît l'absence de parole et qu'il sait faire chanter.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola. Et bonjour à tous, vous êtes sur TF1, il est 20h.
Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un drame effroyable au large de l'île italienne de Lampedusa. Au moins 130 migrants venus de Somalie et d'Érythrée sont morts noyés. Leur embarcation a coulé, une journée de deuil national a été décrétée en Italie.
Il est doux, quand les vents tourmentent de leur trombe la mer aux vastes flots, de se trouver à terre et d'observer de là le grand malheur d'autrui. Non que l'on ait plaisir à voir quiconque à mal, mais voir de quel malheur on est soi-même exempt, c'est cela qui est doux. Est doux également de regarder la guerre, avec ses vastes champs de bataille rangés, sans courir de danger. Mais le plus doux encore est de tenir les temples qu'a fait venir au jour l'enseignement des sages, bien défendu, serein, d'où l'on puisse porter son regard vers en bas et voir au loin les autres errer à l'aventure et chercher au hasard le chemin de la vie, rivaliser d'esprit, viser à la noblesse et faire jour et nuit un colossal effort pour monter au sommet de la richesse et pour être maître des choses. Pauvres esprits humains, oh poitrines aveugles, en combien de périls et dans quelles ténèbres se consume la vie, aussi courte soit-elle.
Raphaël, vous avez voulu donc mettre à côté de l'extrait de Lucrèce le JT de TF1 sur Lampedusa. Il y a quand même une différence, c'est que, bon, peut-être qu'on. C'est vrai que lorsqu'il dit ce drame effroyable, etc., et qu'en réalité, ça touche pas plus que ça le spectateur, mais Lucrèce va un degré au-dessus, puisqu'il dit qu'on y prend plaisir, on se réjouit.
Mais nous sommes tous un peu dans la position que décrit Lucrèce quand on regarde le JT de la 1 ou de la 2 ou de la 5 ou de la 18 ou peu importe si vous voulez. On est tous un peu dans cette position-là, en particulier quand le JT ouvre sur le naufrage de, et la mort par noyade de plusieurs centaines de personnes dont on apprend ensuite qu'elles sont mortes noyées tout simplement parce qu'elles ne savaient pas nager. Donc nous sommes tous un tout petit peu dans la position que décrit Lucrèce, dans la mesure où effectivement il y a une certaine forme de douceur, si monstrueuse soit-elle, dans le fait de contempler un spectacle et de se sentir au fond épargné par les images qui nous le raconte. C'est même une façon de se sentir épargné. C'est la grâce ou l'infamie au choix de la télévision, dont il faut rappeler étymologiquement que c'est la vision à distance. Nous ne sommes pas concernés par ce que nous regardons. C'est pour ça que ce que nous regardons compose parfois un excellent exhausteur de goût au propre plaisir qu'on peut avoir d'avoir bien chaud et d'être tranquille dans son canapé.
Mais il n'y a pas d'ironie dans le texte de Lucrèce.
Non, vous avez raison. Il n'y a pas d'ironie, c'est vrai.
Et c'est dans un poème qui s'appelle La Sagesse, en tout cas dans mon édition, puisque nous parlons en ce moment, Raphaël, avec deux éditions qui sont différentes.
Oui, mais ça, c'est pas grave. Oui. Moi, je travaille sur l'édition de Bernard Potrain parce qu'il a traduit Lucrèce de façon, je trouve, admirable et en respectant le rythme des Alexandrins, ce que je trouve vraiment, vraiment remarquable. Mais peu importe la traduction, vous avez qui, vous, Paola ?
Traduction par José Canty Turpin.
Voilà, bon, chacun la sienne. Ça n'a pas d'importance.
Hein, en vers aussi.
Hein. Voilà, bon, le bonheur de lecture est vraisemblablement certainement le même. L'intérêt de l'édition Potrain est qu'elle est bilingue, donc ceux qui ont quelques rudiments de latin peuvent s'y retrouver aussi, c'est toujours bien. Mais revenons à la lettre du texte, hein, qui est cette douceur que décrit Lucrèce. Il y a deux formes d'égoïsme, si vous voulez, qui sont à mettre en évidence, je crois, à la faveur de ce texte. Et il me semble que le propos de Lucrèce relève d'un égoïsme et non pas du second. La première forme d'égoïsme, on peut l'appeler l'égoïsme verdurin, puisqu'il arrive à Madame Verdurin exactement la même chose qu'au sage de Lucrèce qui, depuis son rivage, voit les hommes se noyer. Quand Madame Verdurin trempe son croissant dans son café au lait, tout en lisant les détails du naufrage du Lusitania. Et sur son goût, sur son visage, se peint la plus intense satisfaction, alors que les paroles, elles, au contraire, disent « Mais quelle horreur, on ne peut pas imaginer plus horrible tragédie. » On est là dans une forme d'étrangeté totale au drame dont on ne veut pas, du coup, subir les conséquences, si vous voulez. Il y a une sorte de déliaison savoureuse de l'individu dont toute la saveur vient du fait qu'on n'est pas concerné. On ne jouit pas du mal d'autrui, pour le dire très simplement, mais on jouit du fait que ce mal nous est épargné. C'est un peu la douceur du badaud, qui ne jouit pas de la douleur de l'accidenté de la route ou du type qui se bagarre devant lui, mais qui se félicite de n'être pas lui-même celui qu'on regarde, mais que ça n'empêche pas de contempler assidûment le spectacle, soit d'un mort sur la route, soit de deux personnes en train de se battre. Donc c'est une première forme d'égoïsme, au fond, dont toute la saveur tient au fait que c'est une douleur qui nous est épargnée. Et on verra d'ailleurs que chez Lucrèce, le bonheur est bien souvent dans le fait que la douleur nous est épargnée. Et il y a une autre forme d'égoïsme, une autre forme de douceur qui, je crois, n'est pas celle de Lucrèce, mais on pourrait en parler pendant des heures, qui est l'égoïsme des personnages sadiens, par exemple. L'égoïsme de ceux qui jouissent, littéralement, du mal qu'ils infligent. C'est-à-dire que c'est ceux qui font mal pour jouir. Ce qui est un argument dont on avait vu, Paola, qu'il était contradictoire, puisque les personnages de Sade déclaraient que la douleur d'autrui ne les concernait pas, alors que leur plaisir les concerne et que, par conséquent, ils ne voyaient aucun inconvénient à faire souffrir autrui si ça leur permettait, eux, de jouir. Mais, en réalité, il est donc faux de dire que la douleur d'autrui ne les concerne pas, puisqu'elle est un élément décisif de leur propre plaisir. Quand un mari ouvre les veines de sa femme et ne parvient à éjaculer qu'en voyant le sang qui s'écoule du petit corps de la vierge qu'il a épousée en lui laissant croire qu'elle serait heureuse avec lui, si vous voulez, ça c'est le marquis de Sade, l'homme ne jouit pas seulement du mal qu'on lui épargne, mais du mal qu'il inflige. Les personnages de Sade, à la différence du sage ou de l'égoïste, sont directement reliés aux êtres qu'ils torturent, à la façon dont non plus Madame Verdurin, mais Monsieur Verdurin, par exemple, adore torturer le pauvre Sagnette. C'est son bonheur, c'est son petit plaisir. Il aime torturer Sagnette, il est méchant. Il est méchant. Ici, avec Lucrèce, on est dans un autre registre.
Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la sagesse ? Avec les philosophes qui se réjouissent de voir d'autres moins savants, moins sages qu'eux ?
Ça n'est pas la sagesse comme telle, mais c'est un des effets possibles de la sagesse. C'est-à-dire que l'une des vertus possibles de la sagesse est de faire en sorte que nous échappions aux souffrances qui sont le lot du commun des mortels. Et la position d'extériorité qui est celle du sage est une position qu'on peut conquérir à tout instant. C'est-à-dire qu'il appartient à chacun, et même peut-être à celui qui se noie, si vous voulez. C'est jusqu'où peut s'étendre la sagesse, ça c'est une question qui reste à débattre. Mais le rivage est toujours à portée de main ou à portée de pied, au fond. Le rivage du sage est toujours à portée de pied. Il appartient à chacun de s'extraire un instant de ce qu'il est lui-même en train de vivre ou de devenir tout simplement le spectateur de ce qu'il vit. Lucrèce donne trois exemples de douceur dans cette ouverture du champ 2 du traité de la nature des choses dont on va parler aujourd'hui. Le premier exemple, c'est être sur le rivage quand un bateau fait naufrage. Deuxième exemple, et ça c'est intéressant parce qu'il mélange l'indifférence et le pacifisme en vérité. Être sur la colline quand dans la plaine deux armées s'entrechoquent, ou alors regarder Alexandre dans sa télévision, hein, Alexandre le Grand j'entends, ou bien regarder les hommes s'agiter depuis la retraite, apparemment inexpugnable, d'un temple. Il décrit trois fois la possibilité de la distance, la mise en spectacle, l'art que l'on trouve de se rendre étranger à quelque chose, qui consiste au fond à regarder la chose de si loin qu'elle ne nous touche pas autrement qu'en nous rappelant que nous ne sommes heureusement pas concernés par elle. Mais encore une fois, cette expérience, tout téléspectateur l'a fait. Il suffit d'être téléspectateur pour être décrit par Lucrèce au début du chant 2 de La nature des choses. Il suffit d'être spectateur à distance, ce que téléspectateur signifie. C'est le grand paradoxe de la télévision. Télévision est un pléonasme, puisque la vision met toujours à distance. On est dans le spectacle, donc télévision, c'est mettre à distance ce qui est déjà à distance en tant que vision. Télé, c'est la distance, vision, c'est la distance. Donc, c'est distance au carré, si vous voulez, télévision. En revanche, c'est contradictoire quand c'est télé-réalité. Puisque la télé implique la distance, alors que la réalité implique que nous nous trouvions nous-mêmes de plein pied avec le réel. En tout état de cause, ici, nous avons très exactement chez Lucrèce, au sens étymologique du terme, un téléspectateur, dont il choisit de faire un sage, ce qui est à la fois audacieux et dans le même temps ce qui lui permet de... Ce qui prête le flanc, au fond, à l'accusation d'indifférence, d'incurie du sage, de celui, vous savez, c'est celui dont Rousseau dit « Péris si tu veux, moi je suis en sûreté », si vous voulez, la figure du philosophe dans sa tour d'ivoire.
Mais c'est un petit peu la même en réalité. Ce que décrit Sénèque ressemble un peu à une expérience de la solitude. On retombe dans le problème que vous décriviez avec Sade, est-ce qu'on met réellement à distance ou est-ce qu'il y a une empathie, même si elle est perverse
C'est amusant parce que vous avez dit Sénèque. Avec Sénèque, il fallait, au fond, c'était le grand paradoxe, on est avare avec ce qu'on possède et on est prodigue avec ce qu'on est. Donc on se donne soi-même sans compter, alors qu'on garde jalousement ce dont on est propriétaire. Or, nous ne sommes que locataires de ce dont on est propriétaire parce qu'on ne va pas mourir riche, et nous sommes en revanche véritablement propriétaires de ce bien inouï que l'on dilapide quotidiennement, qui est ce qui fait notre existence, notre être profond. Si j'ose dire. Épicure ajoute à cette idée l'idée qu'il faut profiter de l'existence, c'est-à-dire ne pas sacrifier l'existence à ce qui nous en éloigne et qu'il faut à tout prix s'épargner la douleur en vertu d'une définition rigoureusement négative de la douleur. Et c'est ça qui est important pour savoir s'il s'agit effectivement de sagesse ou non. Que dit Épicure ? Épicure, Lucrèce. Lucrèce, c'est-à-dire le disciple d'Épicure. Épicure et Lucrèce ne sont pas complètement identiques non plus. Mais enfin, Lucrèce propose dans le traité de la nature des choses la meilleure synthèse dont l'on dispose, et la plus belle d'ailleurs, de l'épicurisme, dont il ne reste par ailleurs que quelques bribes gravées sur des morceaux d'amphore. Là, au moins, on a un poème complet. Voici ce que dit Lucrèce. « Ne voyez-vous donc pas que ce que la nature exige à grands abois, c'est seulement ceci ?» Que soit de la douleur débarrasser le corps, et qu'une fois chassée la peur et le souci, du sentiment de joie, l'esprit se réjouisse.
J'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est contradictoire avec ce que décrit Lucrèce dans le poème qu'on vient de lire au tout début sur la sagesse.
Ce si beau début, hein. Restez célèbre, il est plus connu en latin qu'en français, sous avoué, Marie Magno, etc. Ouais. Allez-y.
Mais parce qu'est-ce que la douleur ne peut pas être considérée elle aussi comme un exhausteur de goût? Est-ce qu'on peut ressentir le plaisir, le bonheur si on éloigne à tout prix la douleur? Est-ce qu'il ne faut pas ressentir un petit peu de douleur pour mieux ressentir
suppression.
Sa suppression, exactement.
Mais ça, c'est ce que dit Lucrèce. Quand il dit que soit de la douleur débarrasser le corps. Il faut à celui qui se débarrasse de la douleur le souvenir de la douleur qu'il a éprouvée.
C'est le bien-être du convalescent que décrit Nietzsche aussi par exemple dans le cas Wagner ou...
Oui, lui il se décrit comme guérissant de Wagner lui-même. Hein. Nietzsche fait l'éloge de la convalescence dans la mesure où il parle, avec Épicure d'ailleurs, d'une modestie de la volupté. Hein. C'est une volupté modeste au fond. C'est une volupté qui se satisfait du souvenir de la douleur pour jouir de l'instant présent. Reste à savoir, si c'est illusoire comme jouissance, parce qu'au fond c'est une jouissance qui correspond à un état qui en lui-même ne nous ferait pas jouir si nous n'avions pas souffert auparavant, donc est-ce que c'est une jouissance illusoire ou est-ce que c'est au contraire une manière de se souvenir de la saveur de chaque instant en le comparant à des instants moins agréables? Au fond, est-ce que c'est une manière d'accueillir la munificence possible de chaque instant ou est-ce que c'est une manière de soumettre le présent au souvenir de ce qu'il n'est plus et qui le rend plus ou moins désirable? Désirable s'il est suppression de la douleur, non désirable s'il est apparition de la douleur. En tout état de cause, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une définition négative de la douleur. Donc il y a chez Nietzsche une pédagogie de la douleur, alors qu'il y a chez Lucrèce une conception négative du bonheur ou de la joie, en l'occurrence il les emploie indifféremment, c'est-à-dire du bonheur entendu comme absence de douleur. C'est presque une conception pessimiste de la douleur. Il présente la suppression de la douleur comme une cause de joie, ce que je trouve un peu simple. C'est-à-dire que s'il suffit de supprimer la douleur pour être en joie, ça veut dire que la joie est définie négativement, qu'elle s'éprouve par négation. Et puis, écoutez, moi je sais pas, faire comme s'il suffisait de supprimer la douleur pour être heureux, c'est au fond, c'est une manière de faire comme ceux qui croient qu'il suffit de supprimer les obstacles pour que tout devienne possible. Comme si au fond, ce qui vous empêchait de courir, de traverser la Manche à la nage, c'était le fait qu'on ne vous en ait pas donné le droit. Voyez ? Comme si le jour où on vous permettait de le faire, tout devenait soudain possible, ouvert.
Alors, à quoi tient chez Lucrèce le bonheur ? Parce que... Enfin, à part dans l'idée que c'est la suppression de la douleur, parce que on dit souvent que chez les épicuriens, le bonheur n'a rien à voir avec les considérations extérieures, avec la richesse, avec le fait d'être riche, avec le fait d'avoir de l'honneur, etc. Et c'est en cela qu'ils peuvent parfois rejoindre les gens, enfin les philosophes comme Sénèque. Enfin, on va entendre un extrait et puis je poserai ma question après parce qu'elle se justifiera d'autant mieux.
Et donc, nous le voyons, la nature du corps n'exige pas grand-chose. Elle veut tout ce qui supprime la douleur et peut, en son sillage, offrir également de multiples délices. Et la nature même, en ce cas, ne réclame rien de bien précieux. Si l'on n'a pas chez soi des simulacres d'or figurant des éphèbes ayant dans leur main droite une torche allumée pour donner la lumière au nocturne banquet, si la maison n'est pas ruisselante d'argent ni reluisante d'or, si les lambris dorés ne résonnent du son de la moindre cithare, eh bien, sur l'herbe tendre, allongée entre soi, sur le bord d'un ruisseau, à l'ombre d'un grand arbre, faire du bien au corps ne coûte pas grand-chose. Surtout quand le temps rit, surtout quand la saison a de fleurs émaillé les herbes verdoyantes. Et de quitter le corps, les ardentes fièvres ne se hâtent pas plus lorsque tu te débats au milieu des tableaux de la pourpre écarlate que s'il te faut coucher dans le drap plébéien.
C'est étonnant de voir à quel point les préceptes, les principes d'une philosophie du bonheur
sont pessimistes.
Oui, sont pessimistes. Voyez par exemple pourquoi Carpe Diem, hein, parce que les pétales de la rose vont bientôt se faner et que tout cela ne dure pas. Et c'est le cas chez Lucrèce dans la mesure où, alors évidemment pour Lucrèce, c'est la véritable connaissance des choses qui doit dissiper la peur, notamment la peur de mourir. On l'a déjà vu quand on a parlé du chant 3 ici, où on voyait que Lucrèce, pour triompher de la peur de mourir, démontrer la mortalité de l'âme et non pas l'immortalité de l'âme. Donc c'est le cas chez Lucrèce. C'est très étonnant ça. Ça c'est un premier point. Ce serait trop long, compliqué, et d'ailleurs au fond d'autres le feraient bien mieux que moi, de vous détailler la pensée du bonheur de Lucrèce et d'Épicure. Mais il suffit de le lire pour la sentir et l'éprouver dans toute sa clarté. Il me semble qu'on doit se donner ça comme principe. Et vous avez pointé ensuite une contradiction propre au texte, qui est donc le fait que il n'y a pas besoin d'être riche pour être heureux.
C'est Lucrèce qui le dit. Alors là, on est tout à fait d'accord, hein. Il n'y a pas de problème. Si l'on n'a pas chez soi des simulacres d'or figurant des éphèbes, ayant dans leur main droite une torche allumée pour donner la lumière aux nocturnes banquets, si la maison n'est pas ruisselante d'argent ni reluisante d'or, si les lambris dorés ne résonnent du son de la moindre cithare, etc. Peu importe. En gros, si on n'habite pas un hôtel particulier avec des gens pour vous servir et vous masser les pieds pendant que vous prenez votre café le matin, on peut être heureux quand même. Bon, c'est rassurant, on est content, ça nous arrange. Mais c'est là que l'épicurisme n'est pas la même chose que le stoïcisme. Souvenez-vous de Sénèque qui dit que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est une phrase de Sénèque. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est comme à consommer avec modération, c'est une phrase de Sénèque aussi. Bon. L'argent ne fait pas le bonheur. Or, c'est un homme richissime qui le dit. L'aurait-il dit s'il avait dormi sous les ponts? Ça a plus de valeur, si vous voulez, quand c'est Diogène qui le dit que quand c'est Sénèque. Mais en ce qui concerne Lucrèce, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y a des conditions nécessaires au bonheur. Alors ces conditions lui semblent des conditions minimales, mais ça c'est pas acquis. Sur l'herbe tendre, allongé entre soi, sur le bord d'un ruisseau, à l'ombre d'un grand arbre, faire du bien au corps ne coûte pas grand-chose, surtout quand le temps rit, surtout quand la saison a de fleurs émaillées, les herbes verdoyantes. Non, écoutez, ça fait beaucoup de conditions quand même.
Oui, en fait, pour Lucrèce, il faudrait habiter dans un poème de Virgile pour être heureux.
Oui, exactement. Mais bien sûr, mais c'est à ça qu'il pense. Il faut l'ombre d'un grand arbre, un temps rieur et des herbes verdoyantes pour être heureux. Donc ça, c'est une faiblesse au fond. C'est-à-dire que le bonheur est malgré tout tributaire des circonstances extérieures. Vous avez par exemple un mauvais lecteur de Spinoza vous dira « Oui, Spinoza, c'est un philosophe de la béatitude, ce qui prouve qu'il ne regarde pas le monde. Et qu'au fond, c'est juste quelqu'un qui sélectionne dans le réel les instants propices à la béatitude et qui ne s'intéresse pas au reste. » Ce qui est une lecture débile de Spinoza. C'est une lecture mensongère, spécieuse, scandaleuse de Spinoza. Spinoza est celui qui enseigne la possibilité de la béatitude malgré les circonstances, en dépit des circonstances, c'est-à-dire c'est celui qui rend la liberté à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire à ce qui ne dépend que de soi, en un sens. Et la béatitude est l'effet d'un rapport au monde, quel que soit le monde. Rien de ce qui est humain ni douloureux n'est étranger à Spinoza. Contrairement à ce que pensent ceux qui ne le lisent pas ou ceux qui le jugent avant de l'avoir lu. Ici, malgré de nombreux passages que Spinoza emprunte à Lucrèce dans l'éthique, notamment l'appendice du livre 1 de l'éthique sur l'idée d'un finalisme au principe de la nature, etc. Ici, qu'est-ce que vous voulez ? C'est moins fort que Spinoza. C'est moins fort dans la mesure où le bonheur exige un certain nombre de conditions. Et alors, c'est moins fort et c'est peut-être plus réaliste. Qui serait heureux ? Qui serait capable de bonheur si les circonstances extérieures ne s'y prêtaient pas un peu ? Alors, vous avez des gens, par exemple, qui vous diront « Moi, je préfère la pluie. » Bon, pourquoi pas ? Reste que préférer la pluie, c'est encore soumettre ou suspendre son bonheur à des conditions extérieures. D'ailleurs, qu'il est doux de regarder la pluie quand on est soi-même bien au chaud, sous un toit, dans une robe de chambre, si vous voulez. Et position Lucrèce, pareil. Mais celui qui préfère la pluie pour son bonheur, même celui qui danse sous la pluie, singing in the rain. Tiens, on va l'entendre, tiens d'ailleurs.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Vous voyez, Paula, celui qui dit préférer la pluie, celui qui est heureux, qui jubile de la pluie, est encore celui dont le bonheur dépend des circonstances extérieures. Et il y a quelque chose d'assez, au fond... Ça, c'est pour le pire, c'est-à-dire c'est le reproche qu'on peut lui faire. Pour le meilleur, j'ai tendance à y voir un prélude, en un sens, ou à une version première de ce que Camus lui-même dira du bonheur. Et dans l'envers et l'endroit, Camus, si j'ai bonne mémoire, dans sa préface, parle d'un été invincible en lui. Il y a en lui un été invincible. Il a trouvé dans le bien-être, dans une misère que le soleil a préservée de l'envie. C'est ce qu'il dit lui-même. Je suis né dans une misère que le soleil a durablement préservée de l'envie. Si vous voulez, l'homme à qui il suffit, comme Albert Camus, parce qu'il a mangé des filles, parce qu'il a mangé des fruits, parce qu'il est né dans une misère que le soleil a préservée de l'envie,
De dormir sur une plage ou de décrire des asphodèles pour être comblé, cet homme-là relève d'un tempérament affirmateur, d'un été invincible, qu'aucun hiver, même Hiroshima, n'est en mesure d'altérer. Camus dit « Dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. » Et il y a peut-être ici du bon usage, au fond, à faire de l'épicurisme. L'épicurisme n'est pas seulement une suspension de la douleur. L'épicurisme, de la même manière que le bonheur vient aussi du souvenir de la douleur qui l'estompe, on peut considérer que la force nous vient aussi du souvenir du bonheur dont nous avons été capables quand il était dans notre pouvoir d'en jouir. Et il me semble que de ce point de vue, Albert Camus raffine la position épicurienne et lui donne au fond ses lettres de noblesse en montrant comment, c'est cette articulation géniale chez Camus, en montrant comment le souvenir du soleil lui donne la force, c'est-à-dire l'amour au fond, lui donne la force de lutter aux côtés des hommes qui souffrent, de ne pas supporter la douleur, voire de l'éprouver.
Oui, sois contemplatif quand les feux du soleil entrent dans la maison, quand, dans l'obscurité, il répand ses rayons. Et tu verras alors, et de mille manières, beaucoup de corps menus se mêler dans le vide au sein de la lumière même des rayons. Et, comme des soldats d'une éternelle guerre, se livrer des combats, lutter par escadrons, sans jamais arrêter, tant, sans désemparer, les viennent tourmenter alliances, ruptures. Et tu pourrais par là deviner de quel genre est l'agitation des éléments premiers des choses quand ils vont, à travers le grand vide, dans l'exacte mesure où une chose peut, quoique petite, offrir un exemple des grandes et mettre sur la voie d'en avoir connaissance.
Il faut rappeler ici que Lucrèce écrit en vers, dit-il, pour faire passer l'absinthe de ce qu'il a à dire. Donc il enrobe de miel la dureté de ce qu'il a à dire. Mais ça va plus profondément que cela. Le secret de la poésie de Lucrèce, ça n'est pas seulement la couverture, le maquillage d'un propos difficile. C'est aussi requis par la nature même du regard qu'il pose sur le monde. Or, quel est ce regard? Eh bien, c'est un regard à la fois attentif, vigilant et métonymique. Attentif et vigilant. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Lucrèce nous invite ici à faire une expérience que tous les enfants, à ma connaissance, ont faite un jour, puisqu'il suffit pour cela d'avoir un peu de poussière et un rayon de soleil. Or ça, tout le monde y a droit, tout le monde. C'est quand on voit dans un rayon de soleil les petits morceaux de poussière qui s'agitent. Et c'est délibérément flou chez Lucrèce. On ne sait pas si pour lui, c'est un point de vue privilégié sur la façon dont la matière s'agence, c'est-à-dire dont les éléments premiers de la matière s'articulent pour composer des particules et s'entendent, enfin pour composer des molécules plus exactement, les particules composent des molécules. On ne sait pas si aux yeux de Lucrèce il s'agit du spectacle véritable de la composition de la matière ou bien tout simplement d'une métaphore, au fond une manière de dire que c'est comme ça que les choses se passent. Pour comprendre ce spectacle-là, il faut revenir un tout petit peu en amont du texte, c'est-à-dire en amont du chant 2, vers le chant premier de la nature des choses, qui pose les principes, au fond, les principes généraux de l'être. Et quels sont ces principes? 1. Rien ne naît de rien. Donc il n'y a pas de création, ex nihilo. 2. Tout dans la nature a son rythme propre, la rose en mai, les moissons aux chaleurs, la vigne en automne. Troisièmement, la normalité de l'homme, l'idée qu'aucun homme n'a la force du fer, ni ne peut traverser les murs comme nous-mêmes traversons l'air. L'idée que rien ne peut être réduit à néant, rien n'est tout à fait détruit de ce qui semble périr, puisque la nature, dit Lucrèce, reforme les corps les uns à l'aide des autres, et n'en laisse se créer aucun sans l'aide fournie par la mort d'un autre. Et puis, la question du vide physique. du vide physique, qui est, avec ces particules élémentaires qui composent la matière, eh bien le second principe essentiel à l'ontologie de Lucrèce. Le vide qu'il démontre par le mouvement, par l'infiltration, par les différences de densité entre deux corps de volume comparable, par le caractère progressif de l'arrivée de l'air dans un nouvel espace. Mais le fond de l'histoire, c'est la solidité, l'éternité et l'indivisibilité des atomes, dont il faudra reparler. Et les atomes, au fond, s'agencent, tombent, et en tombant, ils se rencontrent, on verra comment, et de leur rencontre aléatoire et provisoire, naît la matière. La matière est née de la rencontre aléatoire des particules. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le spectacle de la poussière dans la lumière est une métaphore ou une métonymie de ce processus. Et ce processus lui-même, cette physique qui veut que la matière naisse de la rencontre aléatoire des particules, c'est pas idiot, hein, c'est bien vu, si j'ose dire, alors qu'il n'avait pas d'outils pour ça. Cette physique est elle-même une métaphore, ou inversement d'ailleurs, des rapports entre les humains. Parce que quelle éthique peut-on déduire d'une telle physique? Quelle conception des rapports humains déduit-on de l'idée que la matière naît de la rencontre aléatoire et provisoire des particules?
Le hasard.
Le hasard, et puis surtout le fait qu'au fond, c'est pas un drame tout ça. On en fait des caisses. Un des passages les plus célèbres de Lucrèce, dans le chant 4, peut-être à la fin du chant 4 ou le chant 5, est une critique viscérale du sentiment amoureux. Parce que c'est faire grand cas aux yeux de Lucrèce, c'est donner un nom noble aux yeux de Lucrèce à ce qui relève d'abord d'une coexistence des corps ou d'une convergence des corps. Pour parler de Spinoza, du fait que deux corps forment une idée commune, se conviennent l'un à l'autre. Et nous faisons si grand cas de ça, nous mettons des grands mots, des grandes déclarations derrière ce qui relève d'une simple rencontre physique. L'éthique qui se déduit de cette physique est une éthique libertine, qui consiste au fond à inviter tout un chacun à n'être fidèle en définitive qu'à lui-même. Mais les images de la lumière chez Lucrèce sont très importantes. Un peu plus tard, il parle de la lumière qui doit fendre les flots de l'air. C'est magnifique. Les images de la lumière sont très importantes parce que, au fond, là aussi c'est une métaphore. On est en pleine poésie. Là aussi c'est une métaphore. Car quel est le propos de Lucrèce? De répandre de la lumière sur l'obscurité de nos connaissances, car l'obscurité de nos connaissances est notamment à l'origine du fait que nous avons peur de l'obscurité. Voir que nous pouvons avoir peur de l'obscurité en plein jour. Or, il s'agit pour Lucrèce, très concrètement, de dissiper les peurs. Il considère, c'est peut-être le seul préjugé de Lucrèce, que la peur est soluble dans la connaissance.
Et là encore, il utilise une belle image parce qu'il nous compare aux enfants qui ont peur dans leur chambre parce qu'ils s'imaginent dans le noir des créatures autour d'eux. Et c'est une image qui revient souvent, c'est le texte dont vous parlez quand il parle de dissiper les peurs, c'est un texte qui revient de façon épisodique.
Nous sommes en effet semblables aux enfants qui tremblent au milieu des ténèbres aveugles et qui ont peur de tout. Nous, en pleine lumière, nous avons parfois peur de choses qui n'ont rien de redoutable plus que ce qui épouvante les enfants dans le noir et qu'ils croient voir venir. Il faut donc dissiper ténèbres et terreurs de l'esprit. Et cela, ni rayons du soleil, ni brillants traits du jour ne le font. Ce qu'il faut, c'est bien voir la nature et en rendre raison.
Ce passage est à la lettre près reproduit trois fois dans son poème de la nature des choses.
Alors, pour parler du clinamen quand même, parce que ça serait bête de faire une émission sur Lucrèce et puis de ne pas en parler.
Surtout sur le chant 2, puisque voilà. C'est quand même l'objet du chant 2, oui.
C'est une image, puisqu'on a dit que comme c'était un poème, les images faisaient vraiment partie de la philosophie de Lucrèce. Et donc...
Lucrèce, c'est un autre point commun avec Camus, pardonnez-moi de vous interrompre, on ne pense bien que par image. C'est le Camus dit ça dans ses carnets, il le dit juste après avoir commenté Moby Dick. Il dit on ne pense bien que par image. Et Lucrèce le montre si besoin était. Pardon.
Et le mouvement du clinamen et des atomes est montré par la chute de la pluie.
Oui.
C'est un passage qu'on peut entendre, non ?
Tout à fait, allons-y.
Tandis que par le vide, les corps tombent tout droit sous l'effet de leur poids, ils font, en un moment tout indéterminé, et en des lieux aussi tout indéterminés, un écart dans leur course. Oh, petit ! Juste assez pour que leur mouvement puisse être dit changé. Et s'ils ne faisaient pas souvent un tel écart, alors, de haut en bas, comme gouttes de pluie, tous les corps tomberaient par le vide sans fond. Jamais ne serait né aucun heurt des principes et jamais aucun coup ne les eût affectés. La nature n'aurait en ce cas rien créé. Et puis, s'il en est un pour croire d'aventure qu'étant plus lourd et donc ayant plus de vitesse en tombant dans le vide, et ce, en droite ligne, des corps aient pu d'en haut choir sur de plus légers et engendrer les coups capables de produire les mouvements qui sont des choses génitaux, il divague, égaré loin de la raison vraie.
Regarde comment elle bouge, dit un des deux, je ne sais plus si c'est Tony Curtis ou Jack Lemmon, en regardant Marilyn dans certains
M-Show. Ouais.
Vous avez voulu associer ça au clinamen de Lucrèce, je vous laisse expliquer.
Oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours pensé que clinamen était un mot érotique. Non, en vérité, c'est une scène, c'est la première apparition de Marilyn. Donc elle apparaît sur le quai de la gare, il y a un train, et Jack Lemmon et Tony Curtis sont déguisés en femmes. Ils sont là, se plaignent, ils disent « mais comment elles font pour marcher avec leurs talons ?» Enfin bon, c'est une scène, c'est délicieux, tout le film est délicieux. Et Marilyn leur passe devant, marche, et à un moment, elle croise peut-être la locomotive, je ne sais pas, il y a un jet de vapeur, au fond. Il y a un jet de vapeur, et la caméra qui est obstinément rivée sur le derrière de Marilyn filme à ce moment-là un tout petit écart dans la course. Un tout petit écart dans la course, une toute petite déviation. Or, c'est à l'origine, cette déviation-là, le mouvement des fesses de Marilyn quand son postérieur croise malencontreusement sur un quai de gare un jet de vapeur qui sort de la locomotive, ce tout petit écart change tout. Parce qu'il est à l'origine du fait que tout homme normalement constitué, fût-ce un homme déguisé en femme, ne pourra plus jamais penser à autre chose qu'à cet ensemble sublime, si vous voulez. Et c'est ça qui se passe, là. Et c'est une image qui concilie à la fois l'idée lucrécienne, chère à Lucrèce, d'une petite inflexion dans la trajectoire, inflexion qui est à l'origine, petite obliquité qui est à l'origine de la rencontre des particules élémentaires et donc de la création de la matière. Donc c'est une petite inflexion dont les conséquences sont considérables, puisque sans elle, rien de ce qui existe n'existerait. Et dans le film, on a à la fois la trajectoire rectiligne de la démarche de Marilyn, rectiligne et chaloupée, finit par infléchir un tout petit peu, par se décaler un tout petit peu à l'occasion de ce jet de vapeur. Dans le même temps, cette première scène, cette apparition, ce fut comme une apparition, le derrière de Marilyn, cette apparition est à l'origine de ce qui hante ensuite les deux personnages pendant tout le film. Comment plaire à une femme quand on est soi-même une femme.
Mais l'enjeu de cette très légère inflexion est quand même très important, en tout cas sur la théorie du clinamen de Lucrèce, puisqu'il dit que si ça ne se produisait pas, rien ne se produirait.
Oui, c'est à l'origine de tout ce qui existe. C'est à l'origine de tout ce qui existe.
Mais alors qu'est-ce qui provoque ce mouvement ? Puisque c'est ce mouvement qui provoque les autres, il faut bien que quelque chose le provoque lui aussi.
Eh bien rien. Les atomes dévient, est-ce que c'est dû à leur structure ? Est-ce que c'est dû ? Je ne sais pas. Les atomes tombent dans le vide, mais ils ne tombent pas. Alors, Lucrèce joue sur les deux tableaux. Et c'est intéressant parce que c'est une des contradictions, probablement, de Lucrèce d'ailleurs. C'est une des contradictions qui fait écho à la contradiction sur la composition même des atomes, en fait. Sur la nature même des atomes. Il y a deux contradictions ici, hein, dans la trajectoire et dans la structure des atomes. Juste un point sur la structure des atomes. Pour Lucrèce, en son principe, la matière est composée d'éléments insécables, indivisibles. Comme leur nom l'indique, vous savez comment on dit indivisible en grec ?
J'ai jamais fait de grec, excusez-moi.
Atome.
Ah d'accord.
Voilà. C'est l'indivisible, c'est le non-divisible. Bon. Chaque objet, chaque chose, chaque réalité est donc multiple. Et donc, comme elle est multiple, elle est analytiquement composée, en son principe, d'éléments de corps premier, c'est-à-dire de corps unique, fait de matière et exempt de vide. C'est ce qu'il appelle des atomes, c'est ce qu'il faut appeler des atomes. Et ça, c'est tout le paradoxe de Lucrèce. C'est qu'au fond, pour Lucrèce, les atomes qui ont des formes, peut-être aura-t-on le temps d'en parler, qui ont des formes différentes, dont la forme détermine l'impression qu'ils font sur nous. Ce qui est doux, par exemple, ce qui est doux au goût, comme le miel ou le sucre, plus le miel d'ailleurs, est composé d'atomes ronds et lisses qui du coup passent mieux. Ce qui est dur, désagréable ou déplaisant est composé d'atomes crochus. Il y a un basculement de la quantité vers la qualité. La forme des atomes détermine la nature du sentiment qu'on éprouve en les goûtant. Lucrèce a toutes les peines du monde d'ailleurs à expliquer ensuite la raison pour laquelle nous pouvons aimer ce qui est âpre ou ce qui est amer et détester ce qui est doux. C'est une des difficultés puisque pour lui il y a une réalité objective qui est la forme des atomes qui détermine la qualité des objets que nous éprouvons. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement notre sensation qui détermine la douceur de quelque chose. C'est qu'il y a une douceur objective qui tient à la composition atomique et à la forme des atomes qui composent l'objet qu'on tient pour doux. Donc ça pose ça toute une série de problèmes. Mais ce qui compte ici, c'est de comprendre que si les choses sont composées en leur principe d'atomes, ces atomes ont des formes différentes. Il y en a qui sont crochus, il y en a qui sont doux, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont méchants. Bon bref, sympa ou méchant, non. Mais crochus et doux, oui. Dans le même temps, Lucrèce dit que les atomes ne sont pas divisibles. Donc il pose un terme à la divisibilité des choses, en considérant que les principes premiers, les particules élémentaires, ne sont pas divisibles, et dans le même temps, il leur attribue des formes et des comportements. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il ne peut pas se passer d'atomes au principe de l'existence, sans quoi tout serait labile, fluent. Rien ne parviendrait à la consistance, une consistance éphémère, mais enfin une consistance palpable, des agrégats qui nous entourent et qui nous composent même, des objets, des êtres, etc. etc. L'immuabilité de la matière est garantie par cette transmission. Par exemple, pourquoi un oiseau produit de l'oiseau, par exemple ? Eh bien, c'est que l'immuabilité de la matière, aux yeux de Lucrèce, est garantie par la transmission des caractères spécifiques au sein de chaque espèce vivante. Et ce qui est fou avec Lucrèce, c'est que, au fond, l'argument qu'il invoque, c'est un argument presque par l'absurde. Il faut bien qu'il y ait au terme de la division un élément indivisible, sinon ça ne marche pas. Oui, mais cet élément indivisible, que voulez-vous ? Il est divisible, puisqu'il est dans la matière. Il est fait de matière. C'est intéressant qu'on ait ce débat en pleine récompense, en pleine attribution du prix Nobel aux chercheurs qui travaillent sur le boson de Higgs. Je serais bien en peine d'ailleurs de vous dire en quoi. Pourtant, il paraît que c'est le cas. Lucrèce a eu l'intuition du boson de Higgs. Je renvoie ici nos auditeurs aux lumières, par exemple d'Étienne Klein, sur ce sujet. Mais c'est très intéressant de voir comment Lucrèce exige une simplicité absolue, mais à l'intérieur de la matière. Comment voulez-vous obtenir ça ? Comment voulez-vous ne pas tenir la matière pour divisible à l'infini ? L'argument de Lucrèce, qui voudrait qu'il y ait de l'indivisible au principe de toute chose, est au fond le même argument que celui de Leibniz, qui situe à l'origine de toute chose la monade. Mais quelle est la différence, Paola, entre la monade chez Leibniz et l'atome chez Lucrèce, d'après vous ?
La monade, à la différence de l'atome, n'a pas de matérialité.
Elle n'est pas matérielle. Et elle est ordonnée par un principe supérieur. Bien. Principe providentiel. Il n'y a pas de providence chez Lucrèce, il y en a une chez Leibniz. Une monade des monades, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Mais la monade, elle n'est pas matérielle. Et au fond, c'est logique. Si la matière est divisible à l'infini, tout objet est donc un composé. Et si tout objet est un composé d'éléments premiers, l'élément premier, la particule élémentaire qui est au principe de l'objet, que ce soit ce stylo par exemple, que nous avons entre les mains, tout élément premier ne peut pas se trouver dans la matière elle-même. Ce qui fait que, chez Leibniz, c'est un problème parce que du coup ça veut dire que tout ce qui existe et tout ce qui est matériel est composé d'immatériel. L'immatérialité est au principe de la matière puisque Leibniz est attentif au fait qu'il faut un élément premier, primordial au principe de ce qui est divisible. Mais si on est chez Lucrèce, alors, Lucrèce considère que la matière est au principe de la matière, donc c'est plus logique, mais en même temps, comme on est toujours dans la matière, on n'arrive pas au principe premier. Et Leibniz et Lucrèce, de cette façon, se répondent l'un à l'autre. Vous voyez, par exemple, Lucrèce parle à un moment du dernier degré de la petitesse. Il dit « Il faut reconnaître qu'il existe des particules irréductibles à toute division et qui vont jusqu'au dernier degré de la petitesse. » Mais le dernier degré de la petitesse est encore divisible. Le dernier degré de la petitesse, c'est un degré. Il conserve une distance, c'est une quantité. C'est un peu comme Guitry, si vous voulez. Guitry dit être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent, précisément. Eh bien, être du dernier degré de la petitesse, c'est être encore trop grand pour être indivisible. Et l'absolument premier ne peut pas être matériel, ce qui donne raison à Leibniz contre Lucrèce. C'est un vrai débat. C'est-à-dire qu'il y a une... Si vous voulez, qui a raison, au fond ? Si c'est Leibniz qui a raison, c'est-à-dire s'il existe un au-delà de la matière, la monade, dont la matière est faite, alors on entre dans le domaine de la spéculation. Spéculation métaphysique, providentielle, etc. Bon. Spéculation sur le contenu d'une absolue simplicité, qui en fait chez Leibniz n'est qu'une intention, en définitive. Si c'est Lucrèce qui a raison, on est dans un matérialisme intégral, mais alors on ne parvient pas à trouver la simplicité qu'il requiert en son principe. Et c'est un débat, on n'a pas le temps de le parcourir, mais c'est un débat qui recouvre aujourd'hui l'affrontement, le choc frontal entre deux idéologies qui ont en commun de faire prévaloir l'économique aux dépens du politique, qui sont le libéralisme et le marxisme. Pour le dire très très vite, Paola, vous avez d'un côté avec le libéralisme l'idée que le monde est ordonné à l'insu de ceux qui y agissent et qu'une main invisible vient gouverner nos comportements, on n'est plus chez Leibniz. Et là où on est dans le marxisme, c'est qu'on n'est plus attaché à la description des mécanismes. Mais c'est une description qui, et c'est le tort peut-être du marxisme, se teinte chez Marx d'une téléologie historique, d'un but dans l'histoire, d'une réalisation qu'il faudrait faire advenir, alors que chez Lucrèce, dont Marx était lecteur, au fond, ça n'est pour rien que les choses sont ainsi composées. Mais derrière le débat monade-atome, Leibniz-Lucrèce, il y a le débat entre le libéralisme et le marxisme et un rapport à la question du sens de l'histoire. Et ça, c'est ce qui est génial en philo. C'est qu'on passe de l'ontologie à l'éthique, à l'histoire ou à l'économique.
Vous aviez pointé donc deux contradictions, l'une sur les structures de l'atome et une autre sur leur trajectoire. Et peut-être que dans le peu de temps qu'il nous reste, on peut au moins esquisser la nature de cette contradiction.
La question de la trajectoire, ça m'a toujours semblé bizarre, si vous voulez, que des corps qui tombent en ligne droite soient par ailleurs déviés sans pour autant cesser de tomber en ligne droite. Vous voulez. C'est que chez Lucrèce, la matière est née de la rencontre aléatoire des particules, la trajectoire d'une chute est déviée, infléchie, légèrement infléchie, mais cette déviation ne compromet pas la rectitude de leur chute. C'est très étrange. C'est aussi la raison pour laquelle je pensais à Marilyn. Parce que Marilyn reprend le fil de sa trajectoire, au fond. Une fois qu'elle se déplace, si vous voulez, que son derrière se déplace et revient ensuite dans l'axe, elle reprend le fil de sa trajectoire. Donc, ce qui laisserait penser, au fond, que le clinamen, qu'on a voulu identifier, vous savez, parce qu'au fond, ça y ressemble assez, à la forme d'un spermatozoïde. Le clinamen, ce serait le filament du spermatozoïde dont les oscillations détermineraient une trajectoire aléatoire, une façon d'avancer en zigzag, par exemple. Mais c'est pas ça, en fait, chez Lucrèce, parce que les choses continuent de tomber droit tout en étant légèrement suffisamment infléchies pour se rencontrer. J'ai un peu l'impression que, de la même manière qu'il a besoin d'éléments indivisibles au principe de la matière, et qu'en même temps, ces éléments indivisibles, comme ils sont eux-mêmes matériels, ne sont pas véritablement indivisibles, et que c'est au-delà de la matière qu'il faut chercher cette indivisibilité, donc chez Leibniz, par exemple, j'ai un peu l'impression que chez Lucrèce, il joue sur les deux tableaux, et là, si nos auditeurs veulent contester cette interprétation, libre à eux, et c'est même passionnant de les entendre sur ce sujet, comment une trajectoire peut-elle être rectiligne tout en étant légèrement déviée ? Comment c'est possible, ça ? Ça m'a toujours semblé très particulier. Il y a une autre contradiction dans le texte, mais qui, est, alors là, pour le coup, est une source de poésie à peu près infinie et inépuisable chez Lucrèce. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure de la différence entre la qualité et la quantité.
Oui, c'est la contradiction que vous aviez encore pointée, qui est un peu la troisième. Comment cela se fait-il que certains puissent ne pas apprécier Le lait et le miel.
Oui, c'est ça. Le texte, vous avez le texte sous les yeux ?
Oui.
Allez-y.
Ajoute que le lait et le miel procurent une agréable sensation à notre langue. Mais la répugnante absinthe, la centaurée féroce par leur saveur infecte, nous font grimacer. Tu peux donc en conclure aisément ce qui suit. Quand elles peuvent toucher agréablement nos sens, les choses sont formées d'atomes ronds et lisses, mais quand elles nous semblent âpres et amères, elles sont formées d'un tissu d'atomes plus hérissés.
C'est génial, non ? C'est génial, et c'est tellement bizarre en même temps.
Enfin, moi, je tendrais plutôt à dire que je suis d'accord avec Sidi.
C'est-à-dire que ce qu'il dit est révolutionnaire, là. Parce que dit-il ? Il dit que de la variété des formes d'atomes, de la diversité des formes d'atomes, dépend la variété de nos impressions sensibles. C'est-à-dire que les atomes ont des formes différentes, et cette diversité, cette différence, rend raison des effets variés produits sur nos sens par les corps composés. Le lisse et le rond produisent la douceur.
Donc il y aurait une raison objective à notre sensibilité.
Pas seulement. Bien sûr, il y a ça. Bien sûr. Ce qui pose des tas de problèmes quand vous mettiez du sucre dans votre café et moi non, on peut se dire pourquoi. Alors pourquoi l'amertume me serait douce, si vous voulez. C'est moins contradictoire en ce qui vous concerne que la douceur du sucre, que le sucre vous soit doux et que ce soit la raison pour laquelle vous mettiez du sucre dans votre café. Et qu'en ce qui me concerne, l'amertume est plus douce que le sucre. Il y a là une contradiction dans les termes de Lucrèce. Puisqu'il considère qu'au fond, l'amertume est l'effet d'un atome, enfin d'une molécule, crochue, crochetante, composée d'atomes eux-mêmes crochus ou crochetants. Ce sont des substances déplaisantes. C'est la forme des atomes qui détermine pour lui la densité du diamant, la solidité du fer, la fluidité de l'eau. Tout ça est formidable, extrêmement moderne, d'actualité, comme on dit. Mais ce qui est, là où c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'au fond, bien sûr, il y a cette question de l'objectivité. Qui veut que, si j'aime pas la douceur dans le café, c'est qu'un atome lisse et doux ne m'est pas agréable. Et ça, il va falloir y répondre, et Lucrèce s'y essaye sans y parvenir. Mais au fond, en amont de cela, c'est plus beau que contradictoire, parce que dit-il ? Il dit que la saveur est une traduction de l'agencement de la matière. C'est une façon pour la matière d'être agencée. La saveur. C'est un passage de la quantité à la qualité. C'est une façon de... Au fond, chez Lucrèce, on assiste à une production de la qualité par la quantité. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est comme si... on oppose en général la qualité et la quantité, comme on oppose le vivant et l'inerte. Comme on oppose ce qui se compte, ce qui s'évalue, ce qui s'explique, et ce qui n'a pas de prix, ce qui, à la limite, se comprend mais ne s'explique pas. On les oppose en général, traditionnellement. Ici, Lucrèce explique l'apparition, tout simplement, de la vie et ou du goût à la faveur d'une structure. Si vous voulez, les atomes qui composent du noir ne sont pas noirs eux-mêmes, mais leur forme détermine leur couleur. C'est la quantité, c'est la géométrie qui produit la sensation. Comme c'est la matière qui produit la vie. Lucrèce décrit l'engendrement du savoureux par la rondeur. Or, la rondeur est une géométrie, le savoureux est une qualité. Il décrit l'engendrement d'une qualité par la géométrie. Et de ce point de vue, il est 100 000 fois poète. Le poète par excellence, il est le père des correspondances poétiques. C'est pas les parfums, les couleurs et les sons qui se répondent, mais c'est tout simplement la quantité et la qualité. Il prend le contre-pied de l'idée qu'on ne compare pas les carottes et les navets, si vous voulez. Au contraire, si. Puisque, comme la quantité se traduit dans le langage de la qualité, Lucrèce dévoile le secret d'un art poétique qui n'est pas seulement le miel dont on enrobe l'absinthe, mais également la forme adéquate au monde qu'on ne saisit bien que par les tenailles d'une métaphore. C'est ça qui est très beau dans l'histoire. C'est que, et puis, ça va au-delà, parce que, au fond, ce qu'il décrit, ce que je vous disais tout à l'heure, il décrit l'apparition de la vie elle-même. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que soit la vie est un mystère pour celui qui veut l'expliquer, et une évidence pour celui qui l'éprouve et qui l'épouse, ce qu'on dit en général, on ne peut pas comprendre la vie, ni son apparition, mais quand on la vit pleinement, rien n'est plus simple. Bon, soit la vie est un effet de la matière elle-même, une production de la matière elle-même. Et c'est ce qui est en jeu ici. Vous avez un passage étonnant, on va finir là-dessus, qui est au chant 5, dans lequel Lucrèce dit « Chaleur, humidité régnaient en abondance sur les champs, et partout où le lieu s'y prêtait, des matrices poussaient, enracinées en terre. Et lorsque, parvenues à leur maturité, sous la pression de l'âge des bébés, fuyant l'humidité et aspirant à l'air, elles avaient éclos, vers ce lieu, la nature faisait faire un détour au canot de la terre, l'obligeant à verser de ses veines ouvertes un suc comme du lait, etc. etc., etc. » Bref, que décrit-il ? La naissance de la vie
à partir de l'agencement de l'inanimé. Il permet de penser cela. Et c'est intéressant parce que Lucrèce ne se donne pas la facilité de Diderot qui a matiné de vitalisme son propre matérialisme. Au fond, pour Diderot, il y a une étincelle. Il y a de l'étincelle partout, c'est ce qu'Élisabeth de Fontenay appelle un matérialisme enchanté. Lucrèce ne se donne pas cette facilité-là. Il assume la difficulté de l'émergence du phénomène vital à partir de ce qui n'est pas vivant. Et cette difficulté est une difficulté qui prend la forme biologique de comment des vers peuvent-ils naître de la boue, comment des bactéries ont-elles pu naître du granit, si vous voulez. Mais au fond, c'est une difficulté qu'il traduit en permanence dans ce poème sublime en montrant comment la poésie a pu naître de la physique. C'est au fond la même histoire. Et ou comment le chant a pu naître du silence de toute chose. Non pas de l'absence de bruit, mais de l'absence de parole.
Suave, mari magno turbantibus aequor aventis, et terra magnum alterius spectare laborem, non quia vexari, quenquam est iucunda voluptas, sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est. Suave etiam, belli certamina, magna tu eri per campos instructa, tua sine parte pericli, sed nil dulcius est, bene quam multa munita tenere, edita doctrina sapientum templa serena, despicere, unde quea salios, passinque guidere, errare, atque guiam palantes quaere revitae, certare ingenio, contendere nobilitate, noctes, atque dies niti prestante labore, ad summas emergere opes.
C'est bien qu'on finisse sur Lucrèce en tant que poète parce qu'il faut lui rendre justice et en plus pour les gens qui font du latin, c'est un des poètes les plus agréables à traduire parce qu'il y a une simplicité dans les images et dans les façons de les agencer justement.
Et une familiarité dans les images.
Exactement.
On les retrouve les images, on les connaît et on les connaît parce que Lucrèce les a décrites et quand on lit Lucrèce, on découvre d'où nous viennent ces images qui nous semblaient si familières.
Francesco Philippus Salutendic. Suave Mari Magno. Il est doux quand la mer est haute de mesurer son âge, de contempler serein du bateau qui fait naufrage. Qui bronze sur la plage. Suave Mari Magno.
Merci Paola, merci à tous, merci à François Connac à la réalisation, avec Philippe Palares aujourd'hui à la technique, et Alice Ramon, bien sûr, notre attachée de production.
Il est doux quand la fin est sûre de serrer dans ses mains les fleurs que l'on remporte pour que survive un certain.
Et puis on se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour évoquer cette fois-ci un drôle de texte, un essai de David Hume, du philosophe écossais David Hume, intitulé « Sur la norme du goût », qui se trouve dans les essais esthétiques de David Hume, qui est un essai extraordinaire dans lequel Hume se demande comment faire pour élaborer une norme du goût, alors que, c'est bien connu, nous ne discutons pas de nos opinions et à chacun ses couleurs.
Il est doux quand la mer est haute de mesurer son âge, de contempler serein du bateau qui fait naufrage, les corps qui bronzent sur la plage. Suave Mari Magno.
Retrouvez-nous aussi sur Internet si vous le souhaitez, à la page du Quai Savoir où vous attendent téléchargements, bibliographies, clips et informations pratiques, je n'ai rien oublié. Enfin, surtout, lisez Lucrèce, que voulez-vous ? Lisez le traité de la nature des choses, lisez et relisez ce texte extraordinaire. Dans la traduction, par exemple, qu'en propose Bernard Potrat, une édition bilingue en livre de poche, c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rendre justice à cet excellent traducteur qu'est Bernard Potrat, auquel on doit l'éthique de Spinoza, les élégies de Duino, ou bien donc de la nature des choses, et j'en oublie.
Il est doux. temps, le remords au cœur de celui qui surnage. Suave Mare Magno.
Enfin, retrouver les nouveaux chemins, évidemment, les nouveaux chemins de la connaissance, l'émission inventive par excellence, tous les jours, de 10h à 11h, du lundi au vendredi, évidemment, avec Adèle Van Rett.
Il est doux, quand la mer est haute, de mesurer son âge, de contempler serein du bateau qui fait naufrage. Les corps qui bronzent sur la plage.
17h sur France Culture. Dans un instant, il est doux, très doux, de retrouver du côté de chez soi.